Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Commentaires sur la vie, qui êtes-vous ? Réunis en un volume l'intégralité des trois tomes de commentaires sur la vie de Jiddu Krishnamurti, penseur indien né en 1895 et mort en 1986. Publié en français dans une traduction de Nicole Tisserand et Roger Giroux, l'ouvrage appartient à la fois à l'essai philosophique, à la réflexion spirituelle non confessionnelle et à l'observation psychologique. Il ne propose ni doctrine systématique, ni programme de développement personnel. Les textes prennent souvent appui sur des échanges avec des visiteurs confrontés à des difficultés affectives, morales ou existentielles, précédés de notations attentives sur la nature et le silence. Krishnamurti y examine les mécanismes ordinaires de l'esprit peur, désir, ambition, attachement, souffrance, croyance et besoin de sécurité. Son objectif n'est pas de fournir des réponses à appliquer, mais de déplacer l'attention vers une perception directe de ce qui se passe en soi. Le livre invite ainsi à interroger les conditionnements qui organisent l'identité et les relations humaines. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la connaissance de soi comme observation plutôt que comme accumulation, le centre de gravité du livre est la connaissance de soi. Mais Krishnamurti lui donne un sens éloigné de l'introspection analytique ou de l'acquisition de théories psychologiques. Se connaître ne consiste pas à constituer un récit plus flatteur ou plus cohérent de son identité. Cela demande de voir, dans l'instant où ils agissent, les mouvements de comparaison, de défense, de jalousie, de plaisir ou de peur. Cette orientation est décisive car l'observateur qui prétend corriger son esprit fait souvent partie du problème observé, il apporte ses préférences, ses souvenirs et son idéal de transformation. Le livre met donc en cause la séparation commode entre un moi supposé maître de lui-même et des tendances qu'il faudrait dominer. L'attention demandée est concrète, écouter une réaction sans la justifier, repérer le besoin d'être reconnu, constater la fuite devant une émotion douloureuse. Une telle observation ne promet pas une identité stable. Elle rend plutôt visibles les conditionnements qui composent cette identité. La question qui aide vous ne reçoit dès lors pas une définition définitive. Elle devient une invitation à constater que le moi se construit continuellement à partir de la mémoire, des images sociales et du désir de sécurité. Deuxièmement, le refus des autorités spirituelles, des croyances et des méthodes fixes, Krishnamurti se distingue par une critique persistante de l'autorité psychologique. Il ne conteste pas seulement les institutions religieuses, il examine le réflexe par lequel une personne cherche une garantie extérieure, qu'elle provienne d'un maître, d'une tradition, d'un système de pensée ou d'une technique. Cette recherche peut apaiser momentanément l'incertitude, mais elle risque aussi de substituer l'obéissance à la compréhension. Dans Commentaires sur la vie, aucune méthode graduelle n'est proposée comme voie assurée vers la liberté intérieure. Cette absence de recette n'est pas un manque accidentel. Elle découle de l'idée qu'une pratique poursuivie pour atteindre un résultat peut renforcer l'ambition, l'imitation et la division entre ce qui est et ce qui devrait être. Le lecteur est donc ramené à sa propre responsabilité perceptive. Il ne lui est pas demandé de croire Krishnamurti, mais d'examiner si les mécanismes décrits sont présents dans son expérience. Cette posture explique la tonalité parfois exigeante de l'ouvrage. Elle récuse le confort des réponses prêtes à l'emploi et la promesse d'un progrès intérieur mesurable. La liberté n'y est pas conçue comme l'adhésion à une meilleure croyance, mais comme la lucidité à l'égard du besoin même de dépendre d'une croyance. Troisièmement, peur. Désir et recherche de sécurité dans la vie quotidienne, les situations abordées dans les entretiens renvoient à des préoccupations ordinaires, crainte de perdre un proche. Inquiétude face à la mort, frustration, désir de réussite, solitude ou besoin d'être aimé. Krishnamurti ne les traite pas comme des défauts isolés à éliminer. Il cherche plutôt les processus qui leur donnent continuité. La peur, par exemple, est liée à la projection d'un futur imaginé, mais aussi à la mémoire d'une blessure passée. Le désir se nourrit d'images, de comparaisons et de la répétition mentale d'un plaisir. Cette lecture évite de réduire l'expérience à une simple faute morale. Elle attire l'attention sur le rôle de la pensée lorsqu'elle transforme une sensation ou un événement en problème durable. Le besoin de sécurité psychologique apparaît alors comme un moteur important des conflits, vouloir être certain de son statut, de ses relations, de ses convictions ou de son avenir rend vulnérable à tout ce qui menace ses constructions. L'ouvrage ne préconise pas l'indifférence ni la suppression autoritaire du désir. Il invite à suivre le mouvement du désir et de la peur sans le recouvrir d'explications rassurantes. L'enjeu est de discerner ce qui relève d'un danger concret et ce qui procède d'une anticipation mentale, afin que la conduite ne soit pas entièrement gouvernée par l'évitement ou la compensation. Quatrièmement, les relations humaines révélées par l'attachement et l'image de soi. Le livre accorde une place importante aux relations, car c'est dans le contact avec autrui que les images que chacun entretient sur lui-même deviennent actives. Krishnamurti interroge l'attachement non pour condamner l'affection, mais pour distinguer l'amour de la possession, de la dépendance et de la peur de perdre. Lorsqu'une relation est organisée autour du besoin, que l'autre confirme une identité ou comble un manque, elle devient facilement le terrain de la jalousie, du contrôle et du ressentiment. La difficulté ne se limite donc pas à un comportement individuel, elle tient aux représentations que deux personnes accumulent l'une sur l'autre. Ces images filtrent l'écoute et font survivre les blessures anciennes dans le présent. La réflexion proposée est exigeante parce qu'elle ne réduit pas le conflit à la mauvaise intention d'un partenaire. Elle examine le désir de sécurité, de reconnaissance et de continuité qui peut se cacher derrière les déclarations d'amour. Voir ce mécanisme ne revient pas à nier les liens ou les responsabilités concrètes. Cela signifie refuser de prendre la dépendance affective pour une preuve suffisante de profondeur. Dans cette perspective, une relation plus libre suppose une attention renouvelée, capable de rencontrer l'autre sans le réduire entièrement à un souvenir, à une fonction ou à une image personnelle. En dernier lieu, nature, silence et méditation sans technique comme condition d'une perception neuve, la forme de commentaire sur la vie est indissociable de son contenu. De nombreux passages s'ouvrent sur une observation de paysages, d'arbres, d'animaux, de lumière ou de silence avant de rejoindre les préoccupations humaines exposées dans les dialogues. Ces descriptions ne servent pas seulement de décor littéraire. Elles donnent un exemple de perception non utilitaire, dans laquelle l'attention n'est pas immédiatement captée par le jugement, le but ou le commentaire intérieur. Cette qualité d'attention éclaire la conception krishnamurtienne de la méditation. Celle-ci n'est pas présentée comme une discipline visant à obtenir des états exceptionnels, à répéter une formule ou à se retirer durablement du monde. Elle renvoie plutôt à une disponibilité de l'esprit qui perçoit ses propres mouvements sans choix prématuré. Le silence n'est donc pas un objet à conquérir par la volonté, car cette volonté peut prolonger l'agitation qu'elle veut abolir. L'intérêt de cette approche réside dans son lien avec la vie quotidienne écoutée. Regarder et penser deviennent des actes qui peuvent être examinés avec précision. La nature offre ici moins un refuge romantique qu'un rappel de ce que serait une attention non possédante. Le style contemplatif du recueil rend sensible cette exigence tout en évitant de la convertir en protocole. En conclusion, commentaire sur la vie, qui êtes-vous ? S'adresse au lecteur attiré par une enquête exigeante sur la conscience, les relations et les formes ordinaires du mal-être, mais peu convaincu par les promesses de méthodes rapides. Il peut intéresser les lecteurs de philosophie vécue, de psychologie existentielle et de spiritualité affranchie des appartenances religieuses. Sa lecture demande du temps, car le livre ne se résume pas aisément en principe à retenir et parce que la répétition apparente de certains thèmes sert à éclairer des situations humaines différentes. Son bénéfice intellectuel réside dans la précision avec laquelle il relie les conflits personnels aux mécanismes de la mémoire, de l'image, de la comparaison et de la recherche de sécurité. Sur un plan pratique, il peut soutenir une attention plus fine aux réactions immédiates, sans prescrire un exercice obligatoire ni promettre un résultat garanti. Par rapport à de nombreux ouvrages de spiritualité ou de développement personnel, sa singularité tient précisément à ce refus de fournir une procédure, un idéal de personnalité ou une autorité à suivre. Le volume ne cherche pas à installer le lecteur dans une doctrine de remplacement. Il le place devant la question de sa participation aux habitudes mentales qu'il déplore. La structure faite d'échanges et de notations sur la nature donne en outre une accessibilité concrète à une pensée parfois réputée abstraite. C'est donc moins un manuel de réponse qu'un recueil de mise en question destiné à être lu lentement et confronté à l'expérience personnelle. Si vous souhaitez soutenir Jiddu Krishnamurti, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.